suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leur marteau piqueur, alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare, j'avale 4 expresso très fort, je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle, le reste je ne m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, j'apprends que machin va jouer Scapin, un rôle pour moi ça. J'apprends que Dupont va jouer Néron, mais il sera mauvais comme un cochon. Enfin franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins, hein, que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole. J'ai tout, moi, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance, et moi aussi je serai l'idole des fous. Je suis comédien, je sens soudain le destin à portée de la main. Je monte chez moi, prendre mon bain, je me sens des ailes. Paris, Paris, tiens-toi bien, je fonce à Boulogne, bien court. Je dis, je veux voir Monsieur Dartmoor en conférence. Oh là là, aucune importance, allez, allez, j'attendrai, je suis dans un bonjour.
Thank you. François, vous écoutez Jeudi Noir, 89.4, là, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, et vous venez d'entendre un morceau de du Radermans and Beckermans Orchestra, Europäische Kolumbia. Alors là, on est sur des langues que je ne connais pas, 1924, et comme d'habitude, c'est José qui nous a choisi donc, cette musique, parce que Jean-Mathias, ce soir, en compagnie aussi de Sophie, va nous présenter, donc vont nous présenter, parce que Sophie en sait beaucoup aussi sur cette histoire-là, un ouvrage publié donc, à l'échappée une première fois en 1995 et pour une réédition en 2022, un ouvrage qui s'intitule « Histoire générale du Bund » de Henri Michelès, sous-titré « Un mouvement révolutionnaire juif » qui s'attache finalement à, au Bund, qui veut dire « organisation » je crois en allemand, une organisation sociale-démocrate, donc des ouvriers juifs, qui serait né dans la clandestinité en 1997 en Lituanie, c'est ça, dans le
Vilnius,
voilà.
Ou à côté.
Et donc le premier parti politique juif qui a tout un tas de caractéristiques particulières puisque il est socialiste, marxiste, laïque et il sera aussi anti-sioniste, je crois, et aussi, c'est quand même extrêmement important je pense pour la suite de l'exposé, anticommuniste. Anticommuniste au sens où plutôt anti-bolchévique peut-être faudrait dire. Parce que voilà, ils vont se retrouver dans une opposition finalement de gauche à tout un tas de mouvements de socialisme autoritaire.
Alors il y a une chose à préciser, c'est que c'est à la fois, parce qu'en France, c'est pas du tout évident ça, c'est un syndicat. C'est un syndicat. Ça naît de la volonté aussi d'organiser les masses populaires qui travaillent et qui sont spécifiquement juives et qui ne sont pas forcément organisées et qui sont dans des métiers urbains mais qui sont pas dans la grande industrie et du coup où il faut créer du lien. Donc en fait ils ont été indifféremment et sans les débats forcément qu'il y a eu en France où on est habitué à bien mettre la séparation, non, là c'est à la fois un syndicat c'est justement ce qu'il y a d'intéressant de se pour maintenant, c'est de voir que c'est ça n'obéit pas forcément aux divisions auxquelles on est habitué nous en tant que Français.
Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un parti qui a assez largement et une stratégie politique et une organisation politique a assez largement disparu, qui vient d'un monde, je dirais géographiquement, qui lui-même a largement disparu. Qui vient d'une culture qui a été exterminée. Et donc, il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce bouquin-là, c'est en fait de mesurer en fait tout ce qu'il y a en termes de potentialité politique quand même autour de ce qui a été tenté par le Bund au début du XXe siècle. Et tout ça nous vient d'une espèce d'un monde qui a disparu au fond, qui était celui en fait de l'Empire russe. Et en particulier, c'est le début du livre, tout début. Hein, il y a une carte en fait dans le livre que je trouve très éclairante de ce point de vue-là, puisque c'est la carte de ce qu'on appelait à l'époque la zone de résidence, qui est en fait une zone géographique alors assez immense, hein, puisqu'il y a une bonne partie de l'Ukraine actuelle, de la Biélorussie, de la Lituanie et de la Pologne, et qui est en fait une zone de marche occidentale de l'Empire russe à la fin du 19e et début du 20e siècle, et qui est une zone dans laquelle étaient reléguées les populations juives. Relégués alors avec tout un tas de règles particulières, avec des villes qui leur étaient interdites, avec des métiers qui leur étaient interdits, avec des droits politiques qui leur étaient déniés, des droits civiques fondamentaux qui leur étaient déniés, et avec des conditions de vie absolument terribles, encore plus que celles réservées au prolétariat russe de l'époque, puisqu'ils n'avaient pas accès à tous les métiers, ils n'avaient aucun exercice de leurs droits possibles. Et cette carte de la zone de résidence, donc en fait c'est ça, hein, le lieu de naissance du Bund, de cette organisation révolutionnaire, socialiste, juive et laïque, comme tu l'as dit, porteuse en fait qui porteuse d'un le terme de nationalisme est réfuté par l'auteur Henri Mincelès là qui préfère parler en fait de politique nationalitaire. C'est la première fois que je vois ce terme là, mais j'essaierai d'expliquer pourquoi après, parce qu'effectivement c'est un nationalisme juif mais sans revendication territoriale, ce qui en fait un nationalisme assez atypique là aussi, et en même temps stimulant évidemment aussi aujourd'hui pour comprendre et puis pour essayer de voir ce que les leçons ou en tout cas les indications ou ce qui a été proposé par le Bund. Donc il y a cette carte d'abord d'un monde qui a en fait assez largement disparu, puisqu'en fait il est aujourd'hui découpé entre différents États. Voilà, la Lituanie est indépendante, la Pologne est un État souverain aussi, la Biélorussie n'est pas souverain mais c'est un État quand même, l'Ukraine n'en parlons pas. Et en fait tout ça c'est une zone qui est voilà soumise à la même législation impériale hein, au début du 20e siècle et à la fin du 19e. Et cette carte, elle indique aussi, et ça je pense que c'est important de l'avoir en tête, en termes de chiffres, l'ampleur des déportations en interne de cette zone de résidence, des déportations des Juifs de Russie vers cette zone de résidence et aussi des émigrations plus ou moins forcées en dehors de cette zone de résidence. Et ça donne en fait des échelles qui donnent à penser, comme dirait José. Parce que on comprend pas en fait la situation. Alors il y a la situation matérielle dont j'ai parlé, une misère terrible. Il y a la situation voilà de spoliation de droits, qui est une zone de non-droit pour les Juifs. Et puis il y a toutes les persécutions, déportations forcées, pogroms à répétition. Avec des chiffres en fait hein, qui permettent un peu de mesurer ça. Par exemple, on indique donc là on est à la fin du 19e hein, entre 1880 et 1897. La date de naissance, la fondation du Bund, c'est 1897. Et c'est la même année que le congrès fondateur du sionisme international à la conférence de Bâle. Hein. Donc ça aussi c'est assez fascinant je trouve, parce qu'on a ces deux propositions en fait politiques hein, qui naissent exactement au même moment, qui naissent des mêmes conditions. Qui naissent essentiellement, alors pas tout à fait, mais portés par à peu près les mêmes personnes, même si Herzl lui-même est viennois et d'extraction bourgeoise, il ne connaît pas la misère de la zone de résidence, mais c'est cette misère-là qu'il a en tête aussi quand il va porter le projet sioniste voilà, d'un foyer juif, national juif, comme disait Balfour, en Palestine. Donc en fait, on a là, y compris sur l'histoire du sionisme, en fait, on a deux frères quasi jumeaux.
Une espèce de contrepoint.
Qui est aussi tout à fait passionnant. Alors, les chiffres, j'en donne quand même, hein, pour avoir une idée quand même. C'est en 1882, hein, il s'est rappelé sur la carte, 500 000 juifs habitant des régions rurales dans la zone de résidence, donc cette espèce de zone dont je viens de parler. 500 000 juifs ont été obligés de quitter leur maison pour aller vivre dans les villes ou des shtetls. 250 000 juifs qui vivaient le long de la frontière ouest de la Russie ont été également transférés dans la zone de résidence. Et en 1891, 700 000 juifs vivant à l'est de cette zone avaient été contraints de la rejoindre. Donc ça vous donne quand même une idée de l'ampleur. Hein, on n'est pas sur des petits déplacements de population et on parle là de déportations forcées. Hein. Donc avec, effectivement, pour ceux qui étaient paysans, et plus de terres à exploiter, plus de logements. Pour ceux qui étaient artisans, pareil, plus de commerce, plus tout à reconstruire. Avec des villes qui, en plus, étaient des villes interdites. 1891, 2000 juifs expulsés de Saint-Pétersbourg vers la zone de résidence. 1891, 20 000 juifs expulsés de Moscou vers cette zone de résidence. Et il y a aussi des mouvements de départ hein, contraints depuis cette zone-là. Notamment à l'ouest, à l'extrême ouest, donc qui est actuellement à la frontière entre la Pologne et l'Autriche, et la Hongrie plutôt, la ville de Brody, à partir de laquelle a commencé en 1880 l'exode de plus de 2 millions de juifs en dehors de la zone de résidence jusqu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe occidentale, en Amérique du Sud et en Palestine. Hein, la ville de départ, c'est ça, c'est Brody, et c'est 2 millions de juifs à partir de 1880. Donc on a ce contexte, voilà, cette géographie très particulière, une des conditions économiques qui sont absolument désastreuses, plus À cela s'ajoutent évidemment les persécutions régulières avec des pogroms. Des pogroms, ce sont des meurtres de masse, hein, orchestrés par des Russes, là, puisque en l'occurrence on est dans l'Empire russe, mais qu'ils soient aujourd'hui lituaniens, polonais, ukrainiens ou russes, ce qui donne une espèce de vision quand même assez spectaculaire de la condition des juifs de cette zone de résidence. Et qui permet de comprendre aussi, alors je dirais à la fois quel a été le fantasme, je dirais porté qui a germé dans l'esprit de Herzl avec le projet sioniste, mais aussi évidemment l'aspiration à l'émancipation qui a été elle à l'origine de la création du Bund, donc de ce parti, parti mouvement syndicat, comme tu l'as dit Sophie, qui a organisé et de manière beaucoup plus large d'ailleurs. Hein, dans un premier temps que le sionisme, cette population juive russe, qui se caractérise aussi, c'est évidemment un point qui est crucial, par en fait une communauté de langue. Communauté de langue, cette langue, c'est le yiddish, qui est une langue, alors, créole, quasiment, pourrait-on dire, hein, une espèce d'allemand créolisé, hein, et qui est la langue commune à toute cette population, et qui fait le lien, en plus, évidemment, de la tradition religieuse juive proprement dite, extrêmement présente et structurante dans toute la population, au moins à ce moment-là. Même si, évidemment, du coup, et le livre en parle bien, ce qui tiraille à ce moment-là, c'est aussi toutes les tensions qui apparaissent en termes d'opposition de classe entre juifs eux-mêmes, puisqu'il y a aussi, bien sûr, des conflits entre des juifs qui sont des patrons d'entreprises plus ou moins importantes ou des commerçants plus ou moins prospères et qui ne se privent pas d'exploiter aussi la main-d'œuvre juive qu'ils ont sous la main. Alors ça c'est le premier point, cette espèce de... C'est assez impressionnant et assez émouvant, je dirais, parce qu'on a des espèces de signaux d'un monde disparu, hein, signaux politiques qui en même temps permettent de comprendre des phénomènes auxquels on est confronté aujourd'hui, l'existence de l'État d'Israël par exemple, et puis aussi toutes les tensions évidemment qui existent encore aujourd'hui dans la communauté juive autour de ces questions-là. Alors peut-être pour continuer à donner des éléments de départ, donc je l'ai dit, la naissance du Bund, c'est 1897. 1897, avec un acte de naissance assez confidentiel. Hein. On en parle au départ. Donc c'est décrit page 59. Hein, donc voilà, du 25 au 27 septembre 1897, 7 au 9 octobre de notre calendrier à nous, c'est 13 délégués des groupes socialistes juifs locaux qui se réunirent dans le grenier d'une petite maison en bois dans un faubourg de Vilnius. Alors, il faut les citer quand même, parce que ce ne sont pas des noms dont on entend parler très, très, très souvent. Kremer, Mutnik et Kosovski représentaient les intellectuels de Vilnius. Israël Kaplinski et Hirsch Soroka, l'Arbeiter Stimme et la Yiddischer Arbeiter. David Katz, les ouvriers de Vilnius. Berman, le groupe de Minsk. Hillel Katzblum et Rose Greenblatt, celui de Bialytovsk. Idel Abramov, Vitebsk. John Mill, Léon Goldman et Maria Jalutski de Varsovie. 11 hommes et 2 femmes, 5 intellectuels et 8 ouvriers qui représentèrent quelque 3500 adhérents. Alors c'est quoi ces adhérents? Adhérents de quoi? De différentes organisations juives de classe. Donc syndical, comme tu disais, essentiellement, pour organiser la main-d'œuvre et le prolétariat juif de toute cette région. Hein. Alors bon, 3500, c'est modeste au vu de la population, mais c'est ça qui est le ferment de départ. Hein. Donc on a cet acte de naissance et, encore une fois, je le dis, qui se trouve être la même année que le congrès de Bâle qui va initier en fait le projet sioniste officiellement. Comment on connaît cette histoire-là? Alors ça, c'est aussi un point à la fois spectaculaire et émouvant. C'est l'histoire, je l'ai dit, d'un monde et même presque quasiment d'un peuple disparu, hein, on pourrait dire. L'histoire des archives est assez fascinante aussi, c'est-à-dire ce qui permet de reconstituer ça. Alors, il en parle également aussi au début du livre, mais ça permet de mesurer aussi, hein, en fait, le caractère très particulier de cet objet-là dont on parle, c'est-à-dire de cette histoire-là. Alors, il décrit ça, page 66-67, il nous dit « À la fin de 1898, sur l'initiative de Mill, furent créées les archives du Bund. Lors de l'Erève Bund, c'est-à-dire à la veille de sa fondation, et même avant, à l'époque des cercles socialistes des années 1890-1890, tous les documents, procès-verbaux, affichettes, tracts, manifestes, feuilles volantes, correspondances, bulletins divers avaient été rassemblés. Franz Kurski, qui connaissait bien les pionniers intellectuels socialistes juifs et les pères fondateurs du Bund, devint le directeur des archives. Au fil des années, avec la minutie du talmudiste, la patience du chartiste, la passion du chercheur, il réunit toute la documentation du parti ouvrier juif. La survie de ces archives s'apparente à un roman policier. Accumulés dans plusieurs villes de l'Europe de l'Ouest, tous ces papiers furent rassemblés à Berlin à la fin de la Première Guerre mondiale. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ils furent transférés à Paris, grâce à une vente fictive, à l'ambassade de France. Sous l'occupation allemande, les archives furent découvertes par les nazis et devaient être envoyées en Allemagne. La libération de Paris en août 1944 empêcha ce transfert. Les archives du Bund furent envoyées à New York, dans les locaux du Bund et du Workman's Circle, cercle ouvrier, et des facsimilés au YIVO, l'Institut scientifique juif. En novembre 1993, les archives du Bund, au cours d'une séance solennelle, furent remises au YIVO par le comité de coordination des organisations du Bund de New York, où elles se trouvent actuellement. Mais on a là, on a un parti qui existe encore, notamment, enfin, par ses archives, en fait, conservées au gré des aléas, des transferts, des occupations et des différents conflits mondiaux et persécutions dont il a été victime. Donc ça, c'est pour mesurer un petit peu en fait, de quoi on parle, si vous voulez. Alors avec une complexité donc qui se rajoute, hein, parce que on parle donc encore une fois d'une région qui n'existe plus, d'un peuple qui a été assez largement exterminé au moment de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, d'une proposition politique qui a été elle aussi éradiquée, pourrait-on dire, alors, éradiquée par à peu près tout ce qu'on peut imaginer, hein, éradiquée par les nationalistes polonais, par les nationalistes ukrainiens, par les nationalistes lituaniens, mais aussi par à l'intérieur du judaïsme même, lui-même, par les sionistes notamment, ou par les assimilationnistes, c'est-à-dire ceux qui se sont rangés assez massivement derrière la révolution russe après 1917 et qui eux aussi ont tout mis en œuvre pour éliminer ou effacer en quelque sorte cette tradition et cette proposition politique là. Donc c'est assez ça donne effectivement une espèce de d'aura, je dirais, autour de ce mouvement-là qui est assez particulière, qui explique aussi sans doute un peu le ton du livre. Alors le livre est extrêmement fouillé, construit de manière assez classique, hein, à la fois chronologique, thématique, très très riche du point de vue des indications biographiques qui donnent des différents acteurs de ce mouvement-là, de ces différents des débats doctrinaux, de ces différents modes d'action. C'est un livre très dense, tout à fait passionnant, et qui en même temps un ton un peu qui présente un peu cette histoire aussi sous un mode un peu d'épopée. Hein, on sent que il y a la volonté de transmettre effectivement la proposition politique du Bund dans ce qu'elle aurait, on va le mettre au conditionnel, de plus pur et de plus cohérente, même si ici il indique en permanence tous les débats et les tensions internes aussi qu'il y a pu y avoir à l'intérieur du Bund, notamment dans la manière dont il a eu à se positionner. Alors d'abord par rapport aux autres mouvements et aux autres organisations juives. Les sionistes, mais aussi les sionistes de gauche, mais aussi les partis ouvriers non juifs, mais aussi les partis nationalistes anti-impériaux, au moins jusqu'à 1917. Et puis après, évidemment, à l'égard des différentes tendances de la social-démocratie russe, les bolcheviks, les socialistes révolutionnaires, les mencheviks. Donc on a une complexité qui est assez effarante. Et en même temps qui permet d'avoir une espèce d'entrée en tranche, je dirais, dans cette période historique là, et de redistribuer aussi un petit peu, hein, les différents mouvements, les différents débats à partir d'un point de vue et d'une histoire qui est peu connue et qui redistribue un peu les choses, quoi. Donc ça, c'est pour la présentation. Alors peut-être faire une première pause et puis on entrera plus dans le détail après, oui.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Donc il y avait des conversations animées dans le studio que vous avez peut-être un peu entendues. Et ce soir, donc, alors voilà, vous venez d'entendre donc un morceau de Fugazi. Et donc, dont le titre m'échappe parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais bon, Fugazi, grand groupe de Washington des années 90-2000. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site Durdulu de José, notre technicien à distance qui nous aide et qui s'occupe du site. Donc, dans la première partie de l'émission, Jean-Mathias donc nous présentait en quelque sorte le cadre général de cette histoire générale du Bund d'Henri Michelès, mouvement révolutionnaire juif fin 19e, début 20e, avec des particularités qui aujourd'hui sans doute nous semblent relativement étranges peut-être, parce qu'on n'a plus les cadres historiques, culturels et politiques pour bien les comprendre complètement. Et donc tu nous disais que c'était en quelque sorte il y avait tout un côté peut-être un peu nostalgique d'un mouvement qui a disparu,
pas forcément nostalgique
quelque chose qui aurait été possible et qui vient d'un monde qui a essentiellement disparu.
C'est ça.
C'est pour ça que je disais nostalgique au sens
c'est une pièce manquante, ouais, du puzzle. Tu vois, ouais, il y a un côté un peu comme ça, hein, parce qu'effectivement le sionisme a eu le sort qu'on lui connaît, l'extermination, elle a aussi été digérée par les États européens avec un récit un peu majeur là-dessus. Et effectivement, là, cette pièce-là, elle est manquante et en fait, elle est passionnante.
Voilà. Et moi là, je veux protester contre le nostalgique parce que c'est quelque chose qui, moi, je me considère comme néo-bundiste et j'ai rencontré un groupe qui était les bundistes. Enfin. Les néo-bundistes des années 70, avec un livre important qui s'appelait « Être un peuple en diaspora » de Richard Marienstrass, et dont j'aurai l'occasion de reparler. Et on nous a accusés d'être des nostalgiques. Et l'accusation venait notamment des groupes sionistes. C'est qu'on était dans le passé, et je crois que c'est pas du tout ça. C'est il y a bien sûr qu'il y a quelque chose qui est pas de la nostalgie, mais de retrouver une culture perdue pour les belles choses qu'elle portait. Mais il y a aussi que nous pensons exactement comme dans la même dans l'émission qu'il y a eu avec Yannick Bosque sur une façon de retrouver la politique de Robespierre et des Montagnards, de retrouver des façons de penser l'émancipation, le communisme, le partage, l'organisation de la société, d'une façon différente de ce qui s'est imposé comme des alternatives entre communisme étatiste, nationalisme ancré sur une terre, et sur une terre, un État, une armée, des façons de penser autrement les organisations sociales, et ça nous paraît correspondre à des aspirations du présent. Et il y a dans le Bund des façons de se vouloir juif, d'avoir une identité juive, et d'avoir des propositions que donc Michelès appelait nationalitaire, et sur lesquels et tout. Et puis une façon d'être aussi dans une continuité par rapport à des groupes qui ont été très fortement structurés par la religion et par les institutions qu'il y avait autour de la religion, à un moment où, en fait, la sécularisation généralisée fait que nous considérons comme, nous nous disons laïcs, même si, en fait, c'est pas la laïcité à la française. C'est
non,
pas
mais ça, t'as raison d'insister là-dessus, parce qu'effectivement, c'est des cadres qui sont absolument pas les nôtres. Enfin, on est dans un cadre impérial, hein, c'est en tout cas, au début du 20e.
Très important. 20e.
Donc, avec des peuples, en fait, hein, et pas un peuple, c'est pas un État-nation. Et en fait, là, justement, la manière dont ça va se formuler, cette proposition du Bund, elle déplace des choses sur le rapport à la religion et sur le rapport à l'État, en fait, hein, quand on le pense. Avec des catégories un peu franco-françaises. Sur le rapport à la religion, d'ailleurs, ça, c'est un point important, puisque tu l'as dit au début, Michel, en fait, c'est un mouvement qui se présente à la fois juif et laïque. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? En France, on disjoncte assez vite, en fait, sur ce genre de choses. Alors, pour le comprendre, en fait, c'est un peu dans la quantité de ce que tu disais à l'instant, Sophie, le Bund a contribué très largement à un mouvement de sécularisation, en fait, du prolétariat. là, et de la population juive, de cette zone de résidence. Je cite un extrait là-dessus, hein, qui permet de situer un petit peu les choses. Là. Alors, c'est pareil, c'est vers le début du livre, hein, page 86. Donc, il explique ça, il explique que le Bund, sans aller jusqu'à la provocation, comme les anarchistes qui, à New York ou à Londres, organisaient des banquets à Yom Kippour, ou poussaient des charrettes avec des quartiers de viande de porc dans les rues, le Bund, lui, mettait en garde les travailleurs contre les rabbins. Il créa à son tour un rituel, une morale laïque. Alors, citation, hein, « Le parti était un temple et ceux qui servaient le socialisme devaient avoir les mains pures, les pensées claires, être sans tâche dans les relations entre eux. Toutes ces réunions secrètes, ces lectures du samedi, les célébrations clandestines du 1er mai qui prenaient parfois l'allure de grand-messe, la commémoration des événements historiques, les spectacles pour initier, les bibliothèques ou les étagères étaient emplis d'ouvrages de Plekhanov, de Bernstein et Marx, au lieu des Torahs, des Maïmonides ou Joseph Caro. » forgerait un foyer, formait un tout où l'homme juif n'était plus écrasé par la volonté divine mais prenait conscience de sa propre valeur. Et il conclut un peu plus loin en disant « Le parti ouvrier juif avait insufflé, une religion nouvelle, celle du travailleur juif. » Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a absolument pas d'équivalent dans l'histoire française. C'est-à-dire qu'il y a une dimension ritualiste, traditionnaliste, qui est revendiquée par le Bund et qui, en même temps, est vidée de sa dimension théologique ou mais pas spirituel, on va dire. Il y a quelque chose, il y a une espèce de spiritualité qui est insufflée dans l'avenir socialiste et dans le militantisme révolutionnaire, avec toute une série effectuée de rituels quasi de substitution, pourrait-on dire, et en même temps la volonté d'avoir le même type d'espoir ou d'espérance que celle apportée par la religion, avec effectivement, alors ça il insiste beaucoup là-dessus, une volonté aussi de court-circuiter en fait la collaboration de classe, hein, on pourrait dire en termes marxistes, orchestrée par le rabbin et par les autorités religieuses proprement dites, hein, ça il insiste aussi là-dessus. Bon, c'est un mouvement marxiste, hein, qui se revendique comme tel et qui donc met la lutte des classes avant la solidarité communautaire. Mais évidemment en essayant de garder je sais pas quel est le mot qu'il faudrait trouver, mais de se réapproprier en tout cas cette solidarité communautaire, de la revitaliser d'une certaine manière, hein, par le socialisme, hein, quelque chose de cet ordre là. Alors quelques mots encore pareil sur ce que tu disais à l'instant sur ce terme de nationalitaire là qui est utilisé aussi par Mincelles et qu'il insiste là dessus parce qu'il il veut pas faire du Bund un parti nationaliste juif, parce que des nationalistes juifs il en existe, ça s'appelle le sionisme pour le coup. Et le Bund a été constamment en critique sévère et en opposition très souvent avec le projet sioniste qui l'accusait en fait de réaliser les rêves de tous les antisémites de la planète, à savoir d'expulser en fait, hein, d'expulser le juif, les juifs hors de la population de souche, dirait-on. Et ça, alors dans ce terme de nationalité, il y a effectivement ce que tu disais, Sophie, c'est un projet qui est très difficile à comprendre là aussi, parce qu'il est, c'est pas le projet d'un État-nation, c'est pas la revendication d'un territoire, c'est pas la revendication d'un État juif. C'est la revendication d'une autonomie à la fois civique et culturelle. Je vois pas d'équivalent. Je vois pas d'équivalent politique dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire du mouvement révolutionnaire ou du socialisme en général. Je vois pas d'équivalent à ça. Et je pense que ça se comprend aussi par le cadre de l'Empire russe, hein, dans lequel effectivement le Bund apparaît. La revendication, c'est celle d'avoir une reconnaissance de la part de l'Empire, de droits civiques égaux à ceux de n'importe quel sujet ou citoyen russe. Alors citoyen, évidemment, puisqu'ils sont dans une perspective de révolution sociale et démocratique, et d'avoir aussi une revendication une reconnaissance de spécificité culturelle, c'est-à-dire la possibilité d'organiser des écoles, de transmettre une langue spécifique, le yiddish en l'occurrence, d'avoir des organisations avec une identité juive spécifique. Et la dimension nationale du peuple juif, elle s'arrête là. Et en fait, c'est pas de c'est pas un projet d'assimilation ou en fait de disparition de cette identité juive ou des pratiques juives comme celle qui est par exemple prônée par le léninisme et les bolcheviks, c'est-à-dire que l'idée de, et par Marx lui-même hein, d'ailleurs hein, dans la question juive où en fait Marx a des mots qu'on écrirait j'espère plus aujourd'hui hein, quand il s'agit de parler du judaïsme comme une culture de boutiquier qui dont le destin est de disparaître et le plus tôt serait mieux hein. Donc il y a cette idée là hein, qui est derrière. Là il s'agit pas en fait de renoncer à cette identité, il s'agit pas de renoncer à sa langue, il s'agit pas de renoncer à son histoire, à cette communauté de destin qui justifie le terme de nation hein. Mais il y a pas de revendication territoriale, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de fonder un état-nation juif, il s'agit pas d'avoir un territoire délimité, d'avoir une administration, une autorité politique centralisée sur un territoire, une administration, un appareil législatif qui serait spécifique à ça. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a un peuple juif, il y a une nation juive. Cette nation n'a pas besoin de territoire. Elle n'a pas besoin de territoire. En revanche, elle a besoin d'une autonomie culturelle, c'est-à-dire des moyens légaux pour transmettre, cultiver et développer sa culture spécifique. Encore une fois, dans un cadre français, je vois pas d'équivalent, mais ailleurs non plus. Parce que d'une certaine manière, le sionisme défendu par Herzl, ou ensuite après par les révisionnistes type Bétard, Jabotinsky, etc., on est dans un cadre d'État-nation assez classique. Hein. Il s'agit de fonder un État.
On pourrait peut-être chercher du côté des Noirs américains dans les années 60, quand il y a une revendication identitaire, mais qui ne veulent pas forcément non plus un territoire. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est...
Ouais, il y a des...
C'est
un des...
Dans les années 70, là, les Marienstrass, qui étaient des anglicistes, opposaient le modèle national américain des US, ouais. USA, à celui qui était français, en disant qu'aux États-Unis, on pouvait être afro-américain, italo-américain, et qu'il n'y avait pas comme ça de sommation de perdre ce rapport à ce qu'ils appellent là-bas des racines. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça s'exprime dans des langages. Aux États-Unis, ils parlent de racines. Et c'est pas tout. En France, on a tellement dans l'identité française chevillé au corps la notion que nationalité et citoyenneté sont complètement la même chose.
Et que la République est une et indivisible.
On n'arrive absolument pas à dissocier. En revanche, là, en Ukraine, ça apparaît, la nationalité, la langue, peut être dissociée de la citoyenneté. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est que le projet du Bund n'est pas non plus séparatiste. Ils ont quand même parmi eux une très grande curiosité. Tous parlent plusieurs langues. Il faut voir que dans les confins, on parle, et puis c'est des boutiquiers pour beaucoup, on parle plusieurs langues. Et ils ont été parfois déplacés, donc on parle russe, on parle roumain, on parle polonais, les langues, ça sert à communiquer avec les autres, et même s'il y a des voisins hostiles, il y a plein de voisins avec lesquels on commerce, on a des réunions, on a des projets communs, on travaille, il y a de la solidarité, et pour beaucoup de bundistes, il y a aussi, ils aiment la culture russe, ils parlent russe, et ils se sentent pas du tout d'être dans la séparation.
Ou ensuite la Pologne et le polonais.
Ah oui, surtout le polonais même. Ils se veulent des nationalistes polonais, mais ils veulent un statut de minorité qui ne soit pas promis à l'extinction.
C'est ça.
Ils ne parlent pas en termes d'identité, parce que identité, avant les années 1970, on ne parle pas en concept d'identité. Ils se connaissent comme un peuple, mais là aussi, là actuellement, tout le mouvement qu'il y a suite au livre de Shlomo Sand, il n'y a pas de peuple juif, etc., qu'on nous balance tout le temps à la figure, moi qui m'énerve, un peuple, c'est pas forcément un peuple natif avec un ADN qui remonte à la préhistoire et un état-nation et un territoire purifié de tous les non-descendants, tout. Les bundistes se veulent leur désir d'autonomie culturelle, elle se dit sous la forme de « nous sommes un peuple, nous avons une histoire, une référence, des habitudes, des rites, des histoires qui nous touchent, une langue dans laquelle nous avons une littérature qui est créative et nous nous reconnaissons ». Ils peuvent pas le penser en termes d'identité, c'est pas ça. Oui. Donc ils disent « nous sommes un peuple », ils n'ont pas complètement... parce que ils n'ont pas totalement le sens de ce qui de ce qu'on pourrait dire nous maintenant. Enfin, ce que moi, comme française, justement dépossédée de cette culture, je remarque, c'est quand même beaucoup des soucis de transmission qui se donnent des institutions de transmission sur le modèle de la synagogue, avec beaucoup de ce qu'on a appelé en France les patronages, des modes d'éducation des enfants, des modes de transmission qui sont naturels, qui sont hérités de la tradition et juste transformés. Enfin, il y a des choses qui sont très originales aussi dans ces manières de vivre et de transmettre quelque chose d'un peu différent quand même des autres sociétés. En particulier, un rapport très fort à la culture, tu disais spirituelle, que la culture, ça importe énormément, que d'aller à l'école, que d'être savant, que d'apprendre. Alors évidemment, avant, c'était tourné vers la religion, mais depuis le 18e siècle, c'est tourné vers l'acquisition de connaissances, l'art, le théâtre, il y a des tas de choses qui sont... Alors, dont certaines sont partagées avec les Ukrainiens, avec les Polonais, avec les Russes à chaque fois, avec les Lituaniens, ça compte aussi énormément. Mais au total, plus les années vont passer, plus le Bund aussi, au XXe siècle, se rend compte aussi de du contenu substantiel de ce qu'ils appellent être un peuple.
Oui,
c'est pas qu'une identité.
Cette citation, là, je me permets, c'est une citation de Medem, donc a été évidemment le dirigeant un peu charismatique du Bund, qui résume un petit peu ce programme d'autonomie nationale et culturelle. Alors ça, je cite Medem, c'est page 244. Chaque pays s'engage à entreprendre un certain travail culturel, création d'écoles primaires et secondaires, écoles normales d'instituteurs, bibliothèques, etc. Prenons le cas d'un pays composé de plusieurs nationalités, par exemple des Polonais, des Lituaniens et des Juifs. Il sait de quoi il parle. Chacune de ces nationalités devrait créer un mouvement séparé. Tous les citoyens appartenant à une nationalité donnée devraient rejoindre une organisation spéciale qui organiserait des assemblées culturelles dans chaque région et une assemblée culturelle générale pour l'ensemble du pays. Les assemblées spéciales devraient être dotées de pouvoirs financiers spéciaux, chaque nationalité ayant le droit de lever des taxes à ses membres. Ou bien l'État distribuerait de son fonds général une part proportionnelle de son budget à chacune de ses nationalités. Chaque citoyen du pays appartiendrait à l'un de ces groupes nationaux, mais la question de savoir à quel mouvement national il serait affilié dépendrait de son choix personnel et personne ne pourrait avoir quelque contrôle que ce soit sur sa décision. Ces mouvements autonomes évolueraient dans le cadre de lois générales établies par le Parlement du pays, mais dans leur propre sphère, ils seraient autonomes et aucun d'entre eux n'aurait le droit de se mêler des affaires des autres. Et c'est un modèle, en fait, je ne vois pas d'équivalent, encore une fois. Donc, alors, ça suppose évidemment donc, un État, quand même, et c'est sous l'égide de cet État, une espèce d'autonomie culturelle, il n'y a pas d'autre mot, la plus étendue possible, sur la base d'un choix personnel de nationalité. Voilà. Donc, voilà les spécificités.
Faudrait voir les sphères de justice de Welser, peut-être. Alors, on va faire une petite pause musicale très énergique avec les Stray Cats.
Fingers figures until I'm facelifting a new identity.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Donc consacrée à un livre d'Henri Mincheles, Histoire générale du Bund, un mouvement révolutionnaire juif, avec Sophie, Jean-Mathias et Michel, et puis Morano Platine et José très très loin. Et donc pour cette dernière partie, Jean-Mathias, tu veux nous proposer une espèce de chronologie où tu resitues le Bund.
Il s'agit d'un mouvement politique, politique révolutionnaire qui est en fait impliqué et engagé dans toutes les soubresauts en fait de ce demi-siècle. Le livre en fait il commence en 1897 avec la fondation du Bund, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il s'arrête en gros en 48-49 au moment où la Pologne bascule dans l'orbite soviétique de Staline. Et en fait la partie active politiquement du Bund en tant que parti de masse, pourrait-on dire, en fait c'est 50 ans, hein, ces 50 années là, on peut dire que c'est 50 ans qui sont plutôt animés dans cette région du monde, puisque en fait on a deux guerres mondiales, deux révolutions en Russie, et évidemment l'extermination de la majeure partie de cette population juive d'Europe orientale pendant la Shoah par les nazis. Donc en fait il faut bien s'imaginer qu'en fait tous ces débats et ces projets politiques dans des conditions matérielles extrêmement difficiles du point de vue de la pauvreté endémique en fait qui frappe la majeure partie de ces populations, plus le contexte et plus les soubresauts politique, c'est assez vertigineux hein, en fait, le tout sur 5 décennies. Donc en fait le premier acte, je dirais, j'ai parlé tout à l'heure 1897, la naissance, les premiers débats doctrinaux, en fait le baptême du feu du Bund, on l'a dit, d'abord ce sont des organisations de travailleurs qui mènent des grèves, qui se signalent, qui se rendent visibles, publics, qui se reconnaissent, qui s'organisent à partir de conflits qui sont des conflits syndicaux, qui les opposent à des employeurs, alors soit non juifs, soit juifs. Ça, pour le coup, il n'y a pas de différence à leurs yeux. Leur organisation en tant que parti politique, ce ne sont pas uniquement des syndicalistes, mais un parti politique avec des ramifications extrêmement complètes, puisqu'il s'agit aussi de fonder des écoles, on l'a dit, de fonder des centres culturels, de transmettre et de défendre aussi une langue, de transmettre aussi des traditions, des modes de vie, de construire des rituels, et tout ça en s'intégrant dans le mouvement révolutionnaire ouvrier russe, et dans ses organisations, à savoir la social-démocratie russe, qui intègre à elle aussi tout un tas de tendances jusqu'à la scission de 1903, où là on va avoir les différentes tendances avec donc les bolcheviks d'un côté, les mensheviks de l'autre, dans le parti social-démocrate ouvrier russe. Ce qui va les faire apparaître, je dirais, comme des acteurs politiques, c'est la révolution de 1905 en Russie, qui échoue, mais qui, en fait, va être un premier baptême du feu en termes d'organisation, en termes de présence dans ce mouvement révolutionnaire, donc un mouvement de grève générale, d'abord, en Russie, des espoirs de libéralisation, et puis le pouvoir tsariste arrive à noyer le poisson, à faire des promesses qui ne tiendra pas, des élections qui vont aboutir à pas grand-chose, avec des règles tronquées, etc. Mais ça permet quand même au Bund de s'affirmer en tant qu'organisation politique, d'affiner son programme, d'affiner sa présence, de participer aussi au parti social-démocrate ouvrier russe, avec toujours, alors là pour le coup en interne de la social-démocratie russe, les sarcasmes et l'opposition permanente de tout ce qu'on a appelé le groupe autour de l'Iskra, le journal de Lénine, la tendance bolchevique, qui, elle, refuse en fait le projet du Bund au nom d'un idéal d'assimilation de la population juive à un prolétariat émancipé après une révolution socialiste et scientifique, bien entendu. Donc, en fait, la religion est amenée à disparaître. Tout ce que défend le Bund et toute l'autonomie culturelle et toutes les traditions et les traditions et les différentes formes d'identité qui sont portées par le Bund sont de toute façon des vieilleries du passé appelées à dépérir d'elles-mêmes après la révolution socialiste. Et donc ça, c'est le point de vue assimilationniste qui est défendu par Lénine et aussi par un certain nombre, et un nombre même non négligeable, de révolutionnaires juifs qui s'alignent en fait sur cette position assimilationniste et qui donc vont s'opposer au Bund tout au long de son histoire, jusqu'à le liquider après leur arrivée au pouvoir. Donc entre 1905 et 1917, le Bund fait pratiquement il fait même mieux que jeu égal avec les bolcheviks en termes d'organisation, de capacité d'organisation, d'implication dans les conflits sociaux, dans les conflits de classe. Le Bund a aussi des groupes d'autodéfense parce qu'il est évidemment confronté à des problèmes que n'ont pas forcément les autres, à savoir des pogroms réguliers qui l'obligent à s'organiser pour se défendre, pour se battre et pour échapper, pour sauver sa peau assez régulièrement. Donc tout cela, effectivement, jusque de 1905 à 1917, va faire du Bund un acteur un peu incontournable du mouvement ouvrier révolutionnaire russe. Et puis arrive 17, évidemment. Alors 17, c'est pareil, il faut toujours le rappeler, c'est deux révolutions. Il y a la révolution de février et la révolution d'octobre, le coup d'État d'octobre, pourrait-on dire. La révolution de février est une révolution populaire, démocratique, socialiste. Février-octobre, c'est long, c'est quand même près d'un an. Le tout en plein conflit mondial, évidemment. Alors avec des positions là du Bund qui sont celles du pacifisme révolutionnaire assez proches de celles défendues par les bolcheviks et par les sociodémocrates au sens large. Donc il s'agit de mettre fin au conflit pour ne pas défendre les intérêts de l'Empire qui justement nie et les droits des ouvriers et en l'occurrence dans le cas du Bund les droits civiques des juifs. Février, le Bund est en fait plus ou moins solidaire des positions qui sont défendues par les mensheviks au sein de l'Assemblée constituante russe. Donc il y a cette aspiration très forte d'un socialisme démocratique, très inspiré par la Révolution française, adapté évidemment à la prolétarisation du peuple, en bonne orthodoxie marxiste de ce point de vue-là. Et le Bund va être balayé comme les mensheviks avec le coup d'État d'octobre. Où Lénine prend le pouvoir de manière militaire et autoritaire. Et à partir de là, c'est le début d'une fin accélérée du Bund pour le territoire de la Russie soviétique, puisqu'en fait, il va être bolchevisé à marche forcée, comme toute, soit évidemment, soit épurée, soit intégrée au parti communiste russe. Il va entamer une deuxième vie à partir de 17, mais en Pologne, puisque la Pologne n'a pas, après le traité de Versailles, il y a un territoire polonais qui est donc reconnu internationalement et qui va se mettre à exister alors qu'il était auparavant bouffé par l'Empire russe. Donc l'histoire du Bund, elle se poursuit à partir de 1917 en Pologne. Et là, on repart sur presque trois décennies. Trois décennies avec des problématiques nouvelles, puisque là, les acteurs sont les mêmes qu'avant 1917, sauf que le problème n'est plus du tout le même, puisque avant 17, en fait, il pouvait y avoir des alliances ponctuelles avec les nationalistes polonais contre le tsar, avec les socialistes révolutionnaires polonais contre le tsar, pareil, et on mettait de côté les bisbilles et la spécificité du projet politique porté par le Bund. Mais sauf que là, on est dans un État polonais, souverain, polonais, avec des nationalistes polonais qui sont au pouvoir et que c'est plus du tout la même. De l'autre côté de la frontière, il y a les bolcheviks et il y a les relais du parti bolchevique en Pologne, donc les communistes polonais, qui sont absolument hostiles au Bund également. Donc on a, c'est vraiment une histoire d'une organisation politique en milieu hostile, en fait. C'est de bout en bout, quoi. C'est du point de vue idéologique, matériel, juridique, enfin. Donc il y a ça. Alors c'est BDM puis Ehrlich, en fait, hein, qui vont assumer en fait la direction du Bund dans les années 20, les années 30. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils ont la possibilité quand même de mettre en application un certain nombre de points de leur programme, hein, avec des créations des jeunesses bundistes, avec des mouvements y compris à destination de l'enfance, avec des sanatoriums, avec des centres de vacances, avec toujours le souci d'une transmission culturelle, des pièces de théâtre, de discussions autour d'œuvres littéraires ou politiques. Donc tout ça va durer pendant pendant tout le durcissement du régime polonais. Alors c'est pareil, c'est l'occasion aussi de voir un peu l'évolution du régime polonais entre deux guerres, avec d'abord Piłsudski, qui est en fait un héros de la Première Guerre mondiale, qui met en place une espèce de démocratie autoritaire à partir du traité de Versailles. Et puis, à sa mort, en fait, le régime des colonels qui va durcir et puis transformer le régime politique polonais en quasi-fascisme jusqu'à en fait, à l'invasion de la Pologne, la double invasion à la fois allemande et stalinienne. Je voulais dire quand même deux petits mots pour mesurer, encore une fois, je parlais de l'hostilité là tout à l'heure, la manière dont, en fait, les dirigeants du Bund ont été liquidés. Alors je vous dis ça quand même rapidement parce que ça vaut son pesant de cacahuète. Quelques jours après l'invasion de la Pologne, le comité central du Bund décida de soustraire les dirigeants bundistes aux Allemands en leur conseillant de partir vers l'Est. Parmi les leaders, seul Abrasza Blum resta de son plein gré à Varsovie. Henryk Ehrlich gagna Mieczyszczerk, une localité près de la frontière lituanienne, et Viktor Alter se réfugia à Kowel en Volhynie. Fin 1939, les relations germano-soviétiques étaient apparemment au beau fixe. C'est ainsi que les deux armées fraternisèrent. Selon Bernard Goldstein, à Wlodawa, au cours d'une cérémonie où les troupes soviétiques devaient se retirer pour laisser la place aux nazis, au comble de l'absurdité et du cauchemar, on vit l'orchestre de la Wehrmacht jouer l'international, tandis que la fanfare russe interprétait le Ortfesellied. Voilà. Donc là, on est sur des anecdotes. Et évidemment, Ehrlich et Alter sont, eux, capturés par les Russes et vont être exécutés tout simplement par Staline dès 1939. Alors après, il y a toute une dernière partie, je termine là-dessus, évidemment, sur la Shoah, où là, en fait, Mincelles dit qu'il y a quasiment plus de spécificité du Bund. En fait, on est dans une horreur et une extermination tellement massive. À ceci près, quand même, que c'est quand même un bundiste, Marek Edelman, qui sera le dirigeant de la révolte du ghetto de Varsovie le 1er mai 1942, hein, et qui va utiliser, en fait, les bases militantes et organisationnelles du Bund aussi à ce moment-là. Je conseille le livre, vous l'aurez compris.
Donc c'était l'histoire générale du Bund d'Henri Mincelles, un mouvement révolutionnaire juif à l'échappée. Voilà, donc vous pourrez retrouver l'émission sur durdulu.fr et on vous laisse, on se retrouve dans deux semaines normalement.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est GMC+, Yves au micro, qui vous renouvelle tous ses voeux, qui s'excuse pour la semaine dernière, l'émission qui a buggé. Vous pouvez retrouver l'ensemble du lien du podcast sur ma page Facebook Yves Jazz Libre. N'oubliez pas de télécharger la souscription. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur le site de la radio et que les podcasts sont disponibles pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Oui, soutenez-nous, car la politique culturelle de notre cher ministre de la Culture devient de plus en plus compliquée. En espérant que cette année soit bénéfique pour vous, c'est très mal parti avec un fou furieux à la tête des États-Unis. Mais bon, en attendant, nous allons écouter, évidemment pour ceux qui l'auraient deviné, il s'agit de Jacques Ibert, qui était né en 1890 et mort en 1962. Il s'agit des Escales. Alors, je vous dirai un petit peu plus de choses concernant Jacques Ibert. Mais en attendant, nous allons commencer par écouter les œuvres. Je reviendrai un petit peu après. Donc, nous allons écouter l'œuvre musicale qui s'appelle Escale, qui est en trois parties, qui est une œuvre de jeunesse, puisqu'elle a été créée, elle a été composée entre 1921 et 1922, mais a été créée le 6 janvier 1924 à la Salle Gaveau, au Concert Lamoureux, sous la direction de Paul Paray. Alors, après son poème symphonique « La ballade de la Joule de Reading » et son opéra « Persée et Andromède », Escale donc, a été composé à la Villa Médicis et à Paris. Nous reviendrons évidemment sur la biographie de Jacques Ibert. L'œuvre fait partie du deuxième envoi de Rome, travail obligatoire des pensionnaires musiciens. Donc voilà, c'est une œuvre de commande, même plus que de commande. Alors cette musique est délibérément dite pittoresque et elle était au départ faite pour une suite d'orchestre portant trois numéros auxquels Jacques Ibert attribua un peu plus tard, sur la demande de son éditeur, des titres, c'est-à-dire numéro 1 calme, Rome, Palerme, donc première escale, numéro 2 modéré, très rythmé, Tunis, Nefta, et la troisième dite animée, Valencia. Voilà, je vous laisse en compagnie de cette œuvre, et puis ensuite nous parlerons un petit peu plus du personnage, de sa manière de penser la musique, et puis nous écouterons ensuite une autre œuvre qui sera également maritime. Donc ça a été enregistré les 29 et 30 avril 1996 à la Salle Pleyel, avec l'Orchestre des Concerts Lamoureux sous la direction de Yutaka Sado. Et c'est parti.